Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième vendredi du mois et c'est donc la Fondation Copernic qui investit l'émission Mode d'emploi. Au micro, on retrouve Damien et Laurent et Claude aux manettes. Donc l'émission de ce soir est consacrée au plastique. On l'a d'ailleurs intitulée « En finir avec le plastique ». Le plastique, une matière certainement une des plus pratiques, voire magiques, que l'on ait jamais inventée. À tel point que sous ses différentes formes, il a envahi nos logements, nos outils de travail, nos sacs, nos contenants, nos vêtements, nos cosmétiques, etc. Sous forme de boîtes, de paille, de films plastiques, de fils, il est partout. Son coût de production très faible a permis de multiplier ses usages sans forcément se préoccuper de sa durabilité. On consomme, on jette et on rachète. Depuis les années 50, il est venu remplacer d'autres matières plus durables, du textile, du bois, de la céramique, etc. Dérivé du pétrole et transformé ensuite pour répondre aux différents usages, le plastique est une matière qui se dégrade peu. Résultat, le stock de plastique produit s'accumule et une part importante du plastique répond à des usages jetables, le stock de déchets s'accroît à tel point qu'aucune zone sur Terre n'est épargnée. Des pentes de l'Himalaya jusqu'à la fosse des Mariannes à moins 11 000 mètres, de la banquise de l'Antarctique à l'Antarctique, on retrouve partout du plastique. Ça rime beaucoup cette émission, mais c'est pas fait exprès. Une fois fractionnés, les fragments de plastique peuvent même pénétrer les organismes vivants. La production de plastique, elle a cru de manière exponentielle. On verra pas mal de chiffres dans cette émission. Pour commencer, le premier, on avait une production de 2 millions de tonnes par an en 1950. On est à 407 millions de tonnes en 2015. Donc la masse de plastique, elle est évaluée à 8 milliards de tonnes. Donc on a du mal un peu à se figurer ce que c'est. Alors la conscience de l'ampleur du problème semble récente, mais elle a marqué l'actualité ces derniers mois. On a notamment pu lire « La plastification du monde serait irréversible » dans le quotidien Le Monde en avril. Des nouvelles études confirment la présence généralisée de plastique dans les océans, des taux de record de microplastique dans l'océan Arctique. Et il y a le numéro de juin de National Geographic que je vous conseille, qui est consacré à ce thème. Alors, pour discuter de ces questions, la Fondation Copernic reçoit deux invités. Donc Fanny Vismara.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc qui a participé à la coordination, ou qui a coordonné l'action Plastic Attack. Et Johnny Gasperi.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc qui est maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains, le LESU.
Voilà,
c'est ça. Donc à tous ceux qui nous écoutent, donc vous pouvez appeler l'émission. Donc retenez bien le numéro de téléphone où vous pouvez l'écrire, c'est le 01 40 05 06 10. Et de toute façon, dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver cette émission en ligne sur le site de la Fondation Copernic et sur le site de Mode d'emploi. Mais vous pourrez aussi le réécouter sur Radio Fréquence Paris Pluriel mercredi prochain à 7h du matin.
Ah, je pense. Bonsoir à toutes et tous. Alors, pendant ton introduction, Laurent, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de débats autour des chiffres. Donc, le débat promet déjà d'être animé, ne serait-ce que déjà sur l'introduction. Alors, peut-être qu'avant de commencer ce débat, je vais vous demander très brièvement de présenter vos structures. Et Fanny, on va commencer par vous.
Alors, nous, on est un collectif citoyen. Donc, on n'est pas sous forme d'association, pour le moment, en tout cas. Donc justement, c'est un concept qui est tellement simple qu'on veut que ça le reste. Et donc voilà, on fait des plastiques attaques. Donc on en a fait le 2 juin, donc qui consiste à aller faire ses courses comme d'habitude, payer et ensuite, c'est délester de tous les plastiques à usage unique et sur emballage et donc de les laisser à la charge du distributeur. Donc après les caisses, on fait le tri carton sur emballage et recyclable, le vrai recyclable.
D'accord.
Et on leur laisse tout ça à la charge, d'autant que c'est eux, ils payent le tonnage voilà, des déchets. Donc forcément, quand on touche au porte-monnaie, ça bouge.
Alors, je pense qu'on y reviendra par la suite de façon plus détaillée. Alors peut-être Johnny nous présenter le LESU.
Donc le LESU, c'est un laboratoire donc universitaire qui travaille un petit peu sur la contamination des eaux urbaines dans la ville. Donc on s'est intéressé à différents types de polluants, dont certains perturbateurs endocriniens. Et depuis 4 ans, on s'intéresse à la pollution plastique, à la fois des gros plastiques, hein, les macroplastiques, comme on les appelle, et puis les petits plastiques, les microplastiques, c'est les plastiques qui sont inférieurs à 5 mm.
D'accord. Mais alors, on va commencer par le commencement. Du coup, c'est quoi le plastique, finalement?
Alors, comme tu l'as mentionné, le plastique, il est produit à base de pétrole, donc c'est un polymère qu'on va synthétiser. Ça va être des grandes chaînes moléculaires, qu'on appelle des macromolécules, qui vont s'arranger les unes par rapport aux autres et qui vont donner ce côté très dur, très résistant au plastique. Voilà, c'est ce côté polymère. Alors tout à l'heure, en effet, il y avait un petit débat sur le chiffre. Moi, le chiffre que j'avais, c'était aux alentours de 320 millions de tonnes de plastique en 2016.
Produit chaque année, c'est ça ?
Produit chaque année à l'échelle mondiale. Voilà, donc c'est un chiffre qui est révisé chaque année, mais d'accord, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un chiffre qui est en croissance exponentielle.
Oui, après,
clairement.
A priori, le chiffre qui fait unanimité, c'est le
8,3 milliards de tonnes de plastique depuis 1950.
Ouais, ça, donc voilà, après, il faut faire
très,
le.
Faut
diviser par 68 et on trouvera le bon chiffre.
Ouais. Et en France, on a plus 4% de croissance de plastique par an.
Par an. Et ça, c'est une tendance qui s'infléchit ou ça
bah, non, pour le moment, pas du tout, mais après, bon, là, peut-être qu'il y aura des répercussions. Déjà, avec les mesures européennes qui ont été prises pour les gobelets qui vont être interdits, les pailles, ça, c'est pas encore pour nous, j'espère que ce sera bientôt.
C'est dans les tuyaux au ministère, l'interdiction des pailles.
Et donc, tout ça, ça va avoir des répercussions. Donc, oui, effectivement, ils ont dit que ce sera une perte de 3,2 milliards d'euros pour Plastic Europe.
D'accord, donc Plastic Europe, qu'est-ce que c'est ?
C'est une association de tous les producteurs de plastique européens.
D'accord, donc eux, ils anticipent une perte de leurs revenus. D'accord, mais on pourra peut-être y revenir.
Il y a un chiffre qu'on peut mettre juste en parallèle avec ce. On va dire, donc moi, les chiffres que j'ai, c'est de l'ordre de 320 millions de tonnes de plastique produit chaque année, voilà. Et à côté de ces 300 millions de tonnes, il faut rajouter 60 millions de tonnes de fibres synthétiques qui sont également produites.
D'accord. Ah oui. Alors moi, dans les 400, il y a les fibres synthétiques, notamment textiles.
Pour le textile. Donc,
parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que il y a la matière plastique dure, celle qu'on voit, celle qu'on va utiliser dans nos gobelets, celle qu'on va utiliser. Et puis d'autre part, il y a les fibres textiles, qui sont des fibres synthétiques et qui correspondent à une définition de microplastique. Parce que quand on prend ces fibres, c'est du polyamide, du polyester, qui sont en fait des polymères.
De la viscose aussi, c'est ça ou non?
Alors, la viscose, c'est en effet... C'est, par exemple, on a des fibres, des vêtements qui sont en viscose ou en cellulose. Ces fibres, c'est des fibres qui ont... Le matériau est naturel. Sauf que cette fibre, elle n'a pas été produite sous... Enfin, ce matériau n'est pas produit sous forme de fibre. Donc, on le rend sous forme de fibre. Donc, ce n'est pas du plastique à proprement parler. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est quand on va, par exemple, regarder ce qu'on retrouve dans l'environnement, quand on prélève de l'eau, on va retrouver ces fibres synthétiques, d'un côté, certes, pas de problème, mais aussi on va retrouver les fibres cellulosiques, celles qu'on ne considère pas comme du plastique.
Et elles ne sont pas traitables et on va les boire.
Alors, juste pour éclairer, du coup, ça veut dire que si on les retrouve dans l'environnement, je pense qu'il faut bien expliquer aux auditeurs un peu comment ça se passe, quoi. Pourquoi on les retrouve dans l'environnement alors que finalement ce sont nos vêtements ?
Alors, quand on regarde la pollution par les microplastiques, il y a vraiment deux choses qu'il faut distinguer. C'est d'un côté les fragments plastiques, par exemple, des éclats de plastique qui sont vraiment dus de l'usure de nos matériaux plastiques. Cette usure des macro déchets plastiques, elle peut se faire quand on l'utilise, quand vous allez utiliser votre vaisselle plastique, mais aussi lorsque vous allez abandonner un déchet plastique sur une berge qui peut se fragmenter, par les UV, par l'érosion, etc. Voilà. Donc ça, c'est le côté plutôt pour les fragments. On n'a pas une vision très claire de combien de fragments sont issus de l'abrasion quotidienne de nos plastiques, de la quantité de plastique qui est produite lors de déchets abandonnés sur les berges, par exemple, et qui vont se dégrader. Donc ça, d'un côté, il y a les fragments. Et puis de l'autre côté, les fibres, on y voit beaucoup plus clair, où ces fibres, elles résultent de l'abrasion de nos textiles à travers le lavage de machines à laver.
D'accord. Voilà. Ah oui. Donc, ça veut dire que quand on lave nos vêtements, enfin certains de nos vêtements, donc il y a des fuites dans l'environnement.
Exactement. En fait, alors, c'est pas que dans nos vêtements, parce que des fibres textiles, on voit tout de suite nos vêtements, mais il y en a dans nos moquettes, dans nos rideaux, dans nos canapés. Dans certains matériaux de...
Mais c'est important à préciser parce qu'on n'a pas forcément en tête le fait d'avoir du plastique dans nos vêtements. Enfin, en tant que citoyen, je
polyamide, polyester, voilà, c'est du plastique.
C'est pour ça que c'est bien de les bannir. Le coton, c'est
les
très
vêtements.
Très bien. Ouais, non, pas les vêtements, mais le coton, les matières naturelles.
Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on retrouve des fringues pas chères. Enfin, c'est la plupart des fringues... On va dire, je sais pas
la
si on a le droit de les citer une marque, mais les types H&M, Zara, il y a beaucoup de polyester, polyamide, etc. C'est que c'est moins cher que faire du coton, de la laine.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une source importante de fibres qui vont être relarguées lors des lavages, que ces fibres vont être acheminées par les eaux usées jusqu'aux stations d'épuration et que ces stations d'épuration, même si elles permettent d'abattre allez, entre 90 et 95% de ce qui arrive, il y en a tellement qui arrivent que on arrive quand même à des concentrations importantes. En sortie. Importante, c'est bien de donner un chiffre peut-être,
parce qu'on n'a pas trop d'idées.
C'est quand on parle de fibres totales, ça va être de l'ordre de entre 10 et 50 fibres par litre. Quelque chose de cet ordre-là.
Et 50.
Alors, toutes ces fibres ne sont pas des fibres plastiques. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un mélange et c'est important de bien avoir ça en tête.
Ouais.
Alors, peut-être on peut faire, si on continue un peu sur cette notion de définition. Vous avez participé ou d'ailleurs vous avez mené un projet de recherche sur les estuaires de la Seine. On a pris connaissance en préparant cette émission. Du coup, je ne sais pas si vous avez déjà des résultats à évoquer, mais en tout cas, vous avez suivi un certain nombre de déchets qui ont été volontairement jetés, marqués par des GPS. Et du coup, j'étais intéressé pour finalement avoir des informations sur ce suivi et le comportement des déchets finalement dans l'estuaire.
Alors, pour bien comprendre ce projet, ça part du constat qu'aujourd'hui, il y a entre 5 et 10 millions de tonnes de plastique qui arriveraient chaque année aux océans. Ce 5 à 10 millions de tonnes, le problème, c'est qu'il a été un petit peu sorti du chapeau, comme ça.
Moi, j'avais 9. Hein.
Entre 5 et 10, on est d'accord. Okay. Et que ce 5, ce 10, ce 9, ils sont approximés de manière très, très, on va dire, vague, très imprécise. Et ce qu'on cherche à faire, c'est justement essayer de quantifier les déchets plastiques apportés du continent vers les océans. Alors pour ça, on a réalisé une expérience. Donc c'est avec mon collègue Bruno Tassin et Romain Tramois, que je tiens à saluer, pour lesquels on a mis des petits GPS de 30 grammes. C'est rien du tout, 30 grammes. Une bouteille de plastique, c'est 30 grammes. Voilà, 30 grammes. Où il va nous envoyer une position toutes les 2 heures et qu'on va retrouver. Alors ce que cette expérience a montré, c'est que sur 200 objets lâchés, on en a retrouvé une vingtaine échoués sur des sites préférentiels d'accumulation. Donc il y a un certain côté qui dit, on en a retrouvé 20, mais on n'en a pas...
180.
Voilà. Donc aujourd'hui, on cherche différentes méthodes pour estimer des flux de plastique qui transitent en Seine. Il y a plein de méthodes qui sont possibles, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est... Alors, vous allez dire, les scientifiques, on n'est pas capable de préciser les choses, mais on est entre 500 kilos à 5000 kilos
de
déchets plastiques qui pourraient transiter en Seine et qui pourraient être déversés dans les océans.
Et ça, c'est par jour ou c'est par an?
Par an,
500
entre 500 et 5000. Donc aujourd'hui, c'est nos méthodes, elles en sont là.
Ouais.
Okay. On n'arrive pas à affiner ce chiffre, mais on y travaille.
D'accord.
C'est intéressant.
Après, dans les chiffres que j'avais moi, donc de toute manière, il semblerait donc que 80% des déchets qui sont marins proviennent des apports terrestres. Donc,
ça c'est la magie des références et de la reprise en boucle de plein de choses, c'est que ce 80%, il sort aussi un petit peu du chapeau. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude un jour australienne qui a dit ça et qui a été reprise systématiquement en boucle Et voilà. Et aujourd'hui,
ça me semble pas choquant non plus, quoi.
Ça paraît logique. Sauf que toute la rigueur scientifique qui est derrière, on la connaît pas.
Ça veut dire qu'on manque de chiffres et que
d'études en fait.
Qu'il y a un besoin de pousser la recherche aussi sur ces questions-là, quoi. C'est-à-dire que.
Par contre, tout à l'heure, quand je parle de 500 à 5000 tonnes par an de plastique qui transitent en Seine, je vous rappelle que sur le bassin de la Seine, on est 18 millions de personnes. Donc, si on essaye de traduire ça par tête, ça nous donne pas grand-chose. Ça nous donne entre 200 et 500 grammes de plastique par habitant qui est perdu chaque année.
Oui, dans la Seine.
Dans la Seine.
Parce qu'il y a autre chose.
Oui, parce que.
Le problème, c'est qu'on est nombreux, quoi.
En fait, on consomme, vous et moi, 50 kilos, enfin, peut-être moins.
En moyenne.
50 kilos de plastique par an.
D'accord.
Et une étude considère qu'on va gérer, être amené à perdre 2% de cette quantité de plastique.
Oui, fois le nombre d'habitants, fois la planète.
Mais du coup, le reste est où? Parce que finalement, on est très très mauvais sur le taux de recyclage en France et dans d'autres pays d'ailleurs, depuis le temps qu'on mène ces politiques. Donc il y a un moment, le plastique, s'il n'est pas recyclé,
alors, il est en décharge. Il suit la filière classique.
D'accord.
Beaucoup
incinéré.
Il y a incinéré et enfouissement aussi. Quoi.
Ok, d'accord.
Et recyclage, mais ouais, enfin oui, 20%. Peu, quoi.
Et Fanny, du coup, la durée de vie des plastiques, c'est combien de temps?
Un sac plastique, c'est 400 ans. Ensuite, une barquette en polystyrène, c'est 1000 ans. Et tout ça, enfin oui, pour l'usage unique qui n'est pas réellement nécessaire, dont on pourrait se passer assez facilement.
D'accord, ouais. Et quand on dit 400 ans, c'est une élimination complète ou c'est partiel, fragmenté?
C'est une dégradation fragmentée, je pense.
Un peu les deux, je dirais. Ouais. Les plastiques, ils ne sont pas totalement non biodégradables. Ils sont très difficilement biodégradables. C'est-à-dire qu'ils vont, en plus de se fragmenter, se faire grignoter un petit peu par les bactéries.
J'ai retrouvé une archive de l'INA avec les industriels du plastique qui s'appelait la France défigurée de 1973, et donc ils parlaient déjà du problème plastique et ils disaient dans 10 ans ce sera une catastrophe, mais ça c'était en 73. Donc là maintenant, 45 ans plus tard, on est en plein dedans, on commence à en parler, et les industriels étaient très très fiers de dire qu'ils avaient trouvé un matériau qui était quasiment biodégradable.
Ça c'est intéressant en termes de chronique un petit peu de comment ça se passe et comment ça, l'émergence de cette problématique le premier lanceur d'alerte.
On en avait déjà conscience, quoi. C'est ça qui est fou.
Premier lanceur d'alerte sur la pollution des plastiques dans les océans, c'est 1970. De 1970 à 2004, ben voilà, c'est un peu le calme plat.
Tout le monde s'en fiche, ça se voyait pas trop. 97, c'était la découverte du vortex.
Voilà. Et là, on a commencé à multiplier les études et aujourd'hui, la communauté scientifique, elle a vraiment pris à bras le corps cette thématique des plastiques et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup.
Donc on va faire une première pause musicale et on revient tout de suite sur ces questions brûlantes du plastique. D'ici là, regardez bien quelle est la composition de vos vêtements, s'il y a de la viscose, du polyester, etc. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic qui s'intitule ce soir « En finir avec le plastique ». Je vous rappelle que nos invités sont Fanny Vismara et Johnny Gasperi. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez, si vous souhaitez intervenir, donc 01 40 05 06 10. Alors juste avant de revenir sur la question du plastique, un petit point sur l'actualité de la Fondation Copernic. Donc vous pouvez retrouver sur le site www.fondation-copernic.org plusieurs textes, notamment une tribune parue dans Libération, Europe, une crise sans fin, par Jean-Marie Arribet, Pierre Calfa, Dominique Plilon et Esther Jeffers, notamment sur la situation politique italienne et la nécessité de refonder une Europe sur la justice sociale. Un autre article de Pierre Calfa paru dans Mediapart également le 5 juin sur retraite, le basculement. Et puis vous pouvez retrouver toujours un certain nombre d'ouvrages collectifs produits par la Fondation. Une bonne partie d'entre eux est disponible en PDF. Donc on revient sur le sujet du plastique, je passe la parole à Damien.
Ça marche, merci Laurent. Donc toujours sur l'interrogation sur comment finir avec le plastique, alors peut-être avant de parler de gaspillage et contamination généralisée, j'avais une petite question qui s'adresse finalement à vous deux, c'est que penser des bioplastiques, parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'alternatives, on parle beaucoup de contamination au plastique et qui sont... pour certains d'entre eux, aussi source de controverses, notamment sur des cultures de matières végétales à la place de cultures alimentaires. Enfin voilà, j'avais une petite sur le sujet. Qu'en penser ?
Déjà, même il y a aussi, je ne sais pas si c'est de la question, mais il y a le bio sourcé.
Ça peut faire partie de la question.
Il y a le bio sourcé avec la législation qui, pour le moment, autorise 70% de pétrole dans le bio sourcé. Donc, je vous déconseille de le mettre au compost, voilà, puisque des fois, c'est écrit compostable. Bon, c'était une petite parenthèse.
Ce qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle vraiment biodégradable. Par le passé, il y avait des sacs qu'on croyait biodégradables qui avaient été estampillés biodégradables. Mmh. En fait, ils étaient juste biofragmentables.
Oui, oui, c'est
et
ça.
Ils n'étaient pas biodégradables. Tandis qu'aujourd'hui, la communauté européenne veut mettre le paquet justement sur la production, le développement de plastique vraiment de nouvelle génération biodégradable. Ben alors, en effet, issus beaucoup de végétaux.
Il y a manioc. Manioc, algues, amidon.
C'est toujours un peu mais c'est vrai pour d'autres sujets, finalement, la compétition de culture aussi oui. végétale à destination alimentaire, énergétique ou de plastique.
Enfin, moi, je suis pas spécialement pour.
C'est un peu ça, la question derrière, en fait.
Que ça doit forcément passer par une sensibilisation et une culture raisonnée des végétaux à destination du plastique et aussi une utilisation raisonnée de nos plastiques. C'est-à-dire qu'il y a certains usages où on ne pourra pas s'en passer. Et
il y avait les protéines de lait aussi, mais enfin moi je pense que ça peut être bien sur une phase de transition, mais pas sur du long terme. Je pense qu'il faut vraiment tout revoir et tout changer.
Comme beaucoup de sujets, on est sur des sujets de sobriété finalement en fait. L'essentiel c'est nos comportements en fait.
Que consommer durable.
C'est vrai qu'il y a quand même un truc qui est assez fou, c'est que on se demande comment on peut gaspiller autant finalement, alors que on nous dit que le pétrole est rare et on fabrique le plastique, ça coûte rien.
Et 10% de la production mondiale de pétrole sert à fabriquer du plastique.
10%. D'accord. Et donc, y a un moment aussi, ça va se poser la question de...
La source va se tarir.
La source va se tarir et il faudra faire des choix entre rouler en voiture...
Faudra développer d'autres alternatives aussi. Il y a les moteurs à hydrogène, il y a plein de trucs.
Toutes les utilisations uniques de plastique, c'est vraiment des choses qu'il faut bannir. Et c'est là que les opérations de plastique attaquent. Elles sont vraiment, à mon avis, remarquables dans ce sens-là pour faire prendre conscience aux gens de toutes ces quantités de plastique qu'on utilise dans l'emballage. Gaspille.
Du coup, peut-être nous raconter comment ça s'est passé. C'était le 2 juin, la Plastic Attack à Paris. Enfin, à Paris ou en France.
Même dans le monde. Il y avait une soixantaine de villes qui ont participé, 34 pays, je crois.
Simultanément, c'est ça ?
Ouais. Donc il y a un essor qui est mondial, enfin une conscience qui commence vraiment à bouger. Ça s'est bien passé, tout le monde était carrément réceptif, même les gens qui n'étaient pas forcément sensibilisés. Du coup, il y avait des personnes qui n'étaient pas des participants, qui faisaient juste leur course et qui ont dit « Ah oui, mais c'est complètement dingue de jeter tout ça ».
Alors, vous précisez aussi que vous proposiez des solutions d'emballage, on va dire alternatif à la place du plastique. Parce que j'ai cru voir dans les articles de la Plastic Attack qu'il y avait notamment des bocaux en verre, des choses, ou des sacs en tissu.
Il y avait de la pédagogie derrière.
En fait, on proposait de faire la même chose que si vous faites vos courses dans un magasin de vrac. Et du coup, il y a le vrac qui se développe un peu sur les supermarchés. Déjà aussi, nous, entre parenthèses, on choisit les supermarchés parce que ça correspond aux 2/3 de l'alimentaire en France. Donc c'est là où il faut massivement toucher. Et du coup, voilà, si tout le monde prend de l'habitude d'amener ses bocaux et tout ça, on gaspillera beaucoup moins.
Et comment ils réagissent, les gérants de magasins ? Ils sont pas un peu agressifs ?
Non, pas du tout. Enfin, il y en a eu qui ont un peu buggé. Pourtant, c'était une super OP de com pour eux. Donc, Carrefour nous a très très bien accueillis. Et puis voilà, non, ça s'est très bien passé, puisqu'on on fait rien, c'est pacifique, tout le monde fait les courses. En plus, on leur ramène des clients. Donc.
Ouais. Je crois que c'est important de sentir cette émergence de prise de conscience environnementale de la population, de la société civile, de la communauté scientifique. Il y a vraiment un mouvement très fort.
Plus que les industriels, quoi.
Mais il y en a quand même j'ai l'impression, alors après peut-être que c'est une réaction trop tardive, mais il y a quand même de plus en plus d'industriels qui se fixent des objectifs comme ils pourraient se fixer des objectifs de réduction de consommation d'énergie, qui se fixent des objectifs de réduction de consommation de plastique, voire d'arrêt total du plastique, type, Franprix,
oui,
McDo,
je parle d'industriels, de producteurs.
Ah, d'accord, ouais, ouais. D'accord.
Je parle pas des distributeurs. Les distributeurs, d'accord, justement, ça commence à bouger parce qu'ils voient que les clients sont en demande et donc ils vont dans le sens du client. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi un coût et tout ça. Mais ça bouge.
Ouais. Oui, c'est comme dans toute transition, ceux qui fabriquent des fourchettes en plastique, demain, ils ne savent pas fabriquer une fourchette en bois. Donc, soit ils changent leur mode de faire, soit c'est une industrie qui disparaît au profit d'une autre.
Il faut qu'ils se recyclent. Voilà.
Les mentalités changent et je voulais aussi souligner que notre gouvernement, avec notre ministère là, de la transition écologique solidaire, entreprend également pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la traîne en France par rapport à de nombreuses interdictions.
Non, on suit l'impulsion générale.
On est d'accord, mais on est loin d'être les derniers.
Après, il y a quand même des mesures. J'ai rencontré Brune Poirson, donc qui est la secrétaire d'État générale.
du ministère de la transition
écologique.
Et du coup, je lui ai posé la question du quand est-ce qu'on aura le retour des consignes, et j'ai pas eu de réponse. Ouais.
Alors moi, j'ai lu un chiffre, puisqu'on est beaucoup dans les chiffres dans cette émission, mais que la Norvège recyclerait 97% de ses bouteilles en plastique grâce à la consigne.
Ouais, après, le recyclage, c'est assez limite aussi, vu qu'un plastique, on peut le recycler qu'une seule fois. Donc, et après, il y a des taux de pureté, machin de.
Oui,
donc, mieux, c'est de l'éviter, quoi. recycler, c'est bien, mais ça deviendra un nouveau déchet bout de chaîne, au final. Donc.
Je sais que la question de la consigne est en ce moment débattue au ministère. C'est quelque chose.
Le retour à la consigne.
On s'interroge, on réfléchit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les filières de recyclage, elles sont structurées, organisées. Il y a une économie qui est mise dessus. Si on met un système de consigne, on modifie cette économie.
Bien sûr.
Et donc, ça ne peut pas se faire de manière immédiate, non réfléchie.
C'est toujours le sujet de la transition.
Pouvoirs publics, du coup, freinent parfois, puisque c'est vrai que, ils ont investi dans des centres de tri, des incinérateurs, etc. Et finalement, tarir le flux de déchets fait que.
Ou juste repenser, simplement.
Mais c'est pour ça qu'ils ont fixé les objectifs de 2025, déjà.
Ouais. Alors peut-être une question sur la contamination du vivant, peut-être par ces plastiques. Donc là, je regarde. Je me tourne pas vers toi parce que je suis pas un, mais je te regarde.
Juste pour que vous ayez bien une image, quand on entend contamination par les plastiques, par exemple de la Seine, le cours d'eau qui passe à Paris, on retrouve en Seine entre 1 et 2 fragments plastiques par mètre cube d'eau. Juste pour que vous ayez une idée. Par mètre cube d'eau. Donc, c'est-à-dire.
Gros fragments, pas particules, quoi.
Des petits fragments dans ce qu'on appelle les microplastiques inférieurs à 5 mm. Donc, on en retrouve entre 1 et 2 par mètre cube. Quand on va regarder les fibres, ces fibres, elles vont être 10 fois, 20 fois, 30 fois plus concentrées que les fragments. Voilà. Donc, quand on ouvre un estomac de poisson, par exemple, on va prendre un estomac de gardon, on va retrouver un petit peu de fragments et aussi beaucoup de fibres.
Oui, ça finit dans l'assiette, quoi, de tumeur.
Alors, non, parce qu'en fait, c'est hyper important, parce que quand on dit ça, on peut faire peur. ce qui est avéré scientifiquement, c'est que ces poissons vont ingérer les microplastiques. La plupart des études montrent que les plastiques qui sont ingérés peuvent être coincés un certain partie du temps dans les voies digestives, mais qui sont surtout excrétés.
Et ça ne contamine pas le poisson en soi.
Ce qui peut se passer, c'est que certains plastiques qui sont vraiment tout petits peuvent franchir les membranes, les voies digestives et aller dans, voilà, on appelle ça la translocation. Et cette translocation, aujourd'hui, elle n'est pas avérée, elle est très, très, très débattue dans notre communauté. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand on prend des chairs de poisson, quand tu prends un gardon, tu regardes son estomac, il peut avoir du plastique dedans, mais quand tu vas remarquer sa chair, que tu peux manger, dans sa chair, on ne retrouve pas de plastique.
Donc il y a beaucoup d'élimination, finalement, au final.
C'est-à-dire que les plastiques ne vont pas migrer des tubes digestifs vers les chairs. Voilà, donc, c'est ça qu'on consomme. Ouais, okay. Donc ça, c'est quand même hyper important de le dire.
Le plastique, c'est solide, donc
c'est la particule solide ne va pas migrer. Après, il y a la question des polluants.
J'avais un chiffre qui était aussi un mangeur de fruits de mer qui consomme des moules, des huîtres, vu que c'est des filtres, finalement. J'avais vu qu'il mangeait 11 000 particules par an de plastique. Particules.
On peut en discuter sans aucun problème. Donc ça, c'est une étude qui a été volontairement alarmiste parce que ils ont pris un gros, gros mangeur de fruits de mer, je crois.
Moi, j'en mange pas mal.
En fait, la moule, par exemple, c'est un organisme filtreur, donc elle va filtrer des grands volumes d'eau et donc elle est susceptible d'accumuler certains fragments plastiques. Attention, quand on dit accumuler, quand on va ouvrir une moule, on va retrouver entre 0 et 3 fragments.
Ouais.
D'ailleurs, toutes les moules n'ont pas des fragments ou des fibres. Voilà. Mais ce qu'on retrouve le plus souvent dans une moule, c'est les fibres. Voilà. Quand on va comparer, par exemple, si on mange une demi-heure avec une assiette de 20 cm, là, il va avoir autant de fibres qui va tomber de l'atmosphère sur notre assiette que de plastique.
Il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau.
Que de plastique dans la moule.
Il y en a partout.
Donc, c'est ça qu'il faut aussi mettre en recul.
Dans les chiffres, il y a aussi les 1 million d'oiseaux marins qui décèdent par an. Ça, c'est avéré aussi.
C'est complètement avéré. Ouais.
Même si on n'en mange pas trop, eux, ils en mangent plein.
C'est vrai qu'après, il y a la phase visible, en fait, finalement, ce qu'on parle sur les macroplastiques, là, sont un véritable enjeu.
Donner quelques éléments rassurants et des connaissances scientifiques les plus avérées jusqu'à ce jour qui montrent que dans les chairs, voilà, il n'y a pas que dans l'air, il y en a.
Est-ce que c'est rassurant de dire qu'il y a autant de plastique dans l'air que dans l'assiette?
Non.
C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants, c'est que quand on utilise quelque chose, on a toujours le revers de la médaille. C'est-à-dire que cette table-là qu'on a, qui est revêtue d'un anti-mousse ou d'un anti-... Voilà, et ben, c'est un produit qui fait ça. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que ce produit soit... Voilà. Donc, c'est le...
Claude, va falloir faire quelque chose là, sur la table.
Voilà. Donc,
c'est pas des conditions de travail, ça.
On sait expliquer la présence de ces plastiques dans l'air, en fait, de ces fibres. Simplement, vous comme moi, aujourd'hui, là, on se déplace, on s'agite, on émet des fibres. Cette moquette, elle émet des fibres. Voilà.
Alors moi, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Là, tu l'as dit en passant. Tu as dit, les plastiques, effectivement, ne se retrouvent pas forcément dans la chair du poisson et ne migrent pas forcément de l'estomac. Par contre, les polluants, potentiellement. Donc, ça veut dire qu'il y a des polluants qui sont sur ces plastiques qui peuvent migrer dans le corps.
Alors, en fait, il y a deux effets. Déjà, le plastique... Il n'est pas que du plastique, il y a plein d'additifs pour le rendre plus souple, le rendre plus dur, le rendre transparent. Enfin, pour travailler, on va mettre des additifs et ces additifs, ça peut être 30% en masse d'un côté.
Donc, 30% de la masse du plastique, d'accord.
Voilà. Donc, ce qui peut être fait, c'est que le plastique est ingéré. Au niveau de l'estomac, il y a des sucs digestifs qui vont venir attaquer ce plastique et qui vont faire qu'il y a une partie des additifs qui peut être larguée. Voilà. Et puis autre chose qui se passe quand on parle de plastique, c'est que ces plastiques, ils ont une grande affinité avec les polluants organiques, style des perturbateurs endocriniens. Ils peuvent agir comme des petites pompes à perturbateurs endocriniens. Donc, ils sont dans l'eau, ils agissent un peu comme des petites pompes. Il y a pas mal de choses
des
qui viennent
capteurs,
se coller.
Ouais.
Voilà. Et après, ils peuvent être ingérés.
Cool.
D'accord. Donc,
vous avez bien compris que moi, j'aimais bien mettre un petit peu de recul et de contexte.
Oui, scientifique, quoi. Pas d'émotionnel.
Le poisson, il mange pas que du plastique. Il mange beaucoup de particules minérales ou d'autres particules organiques et qui ont elle aussi des affinités avec les perturbateurs endocriniens. Donc c'est quand même rassurant de se dire qu'on va retrouver beaucoup plus de ces particules minérales et organiques dans l'eau que du plastique, et donc quelque part on peut s'interroger sur la contribution du plastique dans
après,
tout ça.
Enfin, on dit quand même que si on ne change rien, en 2050 il y aura plus de plastique que de poissons, donc même si c'est pas nous qui le
mais moi je suis mais mille fois partisan qu'il faille changer les choses et que il faut qu'on y aille carrément.
Allons-y.
Voilà, donc alors et militant aussi.
On va aller d'abord écouter un peu de musique et on revient tout de suite. Peut-être un chiffre pour le maturer, voilà, pour se détendre. Donc moi j'ai un chiffre là, sur certaines plages d'Hawaï, 15% du sable serait composé de grains de microplastique. Donc 15%. Voilà, on écoute une petite musique. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body. À toutes et à toutes, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic qui s'intitule ce soir « En finir avec le plastique ». Je vous rappelle que nos invités sont Fanny Vismara et Johnny Gasperi. Vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10.
Alors peut-être avant de parler du rôle des différents acteurs économique et des pouvoirs publics, revenir juste en quelques minutes sur l'ampleur du gaspillage, parce que c'est un chiffre qu'on n'a pas forcément cité, l'usage notamment des produits jetables plastiques. Est-ce que là-dessus, vous avez quelques chiffres à nous donner sur l'utilisation de produits jetables?
Oui, déjà, en France, l'emballage plastique, ça correspond à 66% de tout ce qui est jeté.
De la consommation.
D'accord. Tout ce qui est produit jeté.
Ouais. Donc c'est une grosse majorité quand même. Pour l'usage unique.
D'accord. Parce que, enfin, c'est...
À l'échelle européenne, c'est 40. Donc nous, on est des gros consommateurs de plastique.
D'accord. Ce qui veut dire que finalement, on utilise un plastique pendant quelques minutes et
même
du coup.
Même pas des fois.
Ouais, quelques secondes. Et après, on en a pour, vous disiez, 400 ans à 400 à 1000 ans de dégradation. Pour quelques secondes d'utilisation.
Ah, c'est vrai que moi, je voyais, il y a quelques semaines, une campagne de communication de Greenpeace qui parlait de. Donc c'était Ridiculous Packaging. Et donc, l'idée étant de montrer des photos d'emballage assez ridicules. Et on voyait des bananes épluchées emballées ou des fraises individuellement.
Dans une mousse polyuréthane.
Et la canette de Coca,
beauté,
j'ai le droit de citer une marque, mais canette de Coca emballée dans le plastique.
Alors c'est en alu. Là, on a joué plein d'élire.
Mais bon, peut-être qu'on peut passer...
En France, on n'est pas les pires, mais au niveau du bio et tout ça, il y a quand même de l'emballage qui est vraiment parfaitement inutile. Mais les Anglais sont aussi pas mal champions, mais bon.
Donc, d'ailleurs, la France a prévu d'interdire la vente de gobelets, de verres, d'assiettes jetables et de coton-tige en plastique d'ici 2020.
C'est ça.
Et alors, quelle est, sur ces législations-là, on est dans le, on va dans le bon sens. Est-ce que ça représente quoi? C'est 5-10% du total? Est-ce qu'il faut aller plus loin?
Ça va, oui, c'est sûr que ça va dans le bon sens.
Ça ne peut aller que dans le bon sens.
Il faut se déplastifier. Suffisant. Effectivement, déjà, la consigne, ça enlèverait toutes les bouteilles plastiques. Ça, ce serait...
Quand on se balade sur une berge, par exemple la berge de Seine, quand on va du côté de l'estuaire, malheureusement, ce n'est pas que ces items-là qu'on retrouve. On va retrouver beaucoup d'ustensiles de jardinerie, beaucoup de PET, beaucoup de jouets pour enfants... etc., etc. Donc, il faut bien commencer par quelque chose.
Le consommable, déjà, c'est primordial, surtout dans l'alimentaire. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas pour éliminer tous les plastiques, mais l'usage unique, oui.
Sachant que la plupart des plastiques se trouvent dans la cuisine. Enfin, finalement, notre principale consommation de plastique, c'est à usage de la cuisine.
C'est ça. C'est de l'alimentaire.
Et un peu dans la salle de bain, quand même, aussi.
Et puis après, il y a certainement du plastique jetable pour les industriels ou les commerces... les emballages de palettes, etc., enfin, de films plastiques.
Ça, je pense que ça va se mettre en place. J'ai vu un restaurateur déjà qui propose plus de paille de son propre chef et qui propose que des pailles en acier inoxydable. Je pense que tout le monde commence à faire des efforts et ça, c'est bien, mais il faut que ça aille plus vite.
En fait, ces items, c'est des items symboliques. On parle souvent du bâton de sucette, du coton-tige, parce que c'est des items qu'on retrouve très souvent le long des berges. Voilà.
Ouais. Sur les plages aussi.
C'est des systèmes enfin, c'est des items qui passent les systèmes urbains, en fait. Par exemple, un coton-tige,
c'est petit.
Il va passer à travers la station d'épuration ou à travers les déversoirs d'orage. Ça peut passer très facilement.
Mais là, justement, il y a Franprix qui a pris les devants. Et je crois qu'ils vont aller avant l'interdiction et ils vont proposer directement donc, les cotons-tiges, avec le truc en carton.
Et d'ailleurs, moi, c'est une question que je me posais. Vous, est-ce que vous travaillez régulièrement avec les collectivités locales? Parce que est-ce qu'il y a des, je sais que la recherche et les politiques publiques
On travaille beaucoup.
Forcément. Ouais, vous travaillez ensemble. Alors, sur ces sujets. Et
c'est vrai que, de manière générale, en recherche, l'échange ne se fait pas. Mais nous, dans mon laboratoire, on a l'habitude de vraiment co-construire nos recherches. Et donc, les collectivités ont aussi saisi la problématique.
Tu sens une évolution
très importante. Je travaille particulièrement, par exemple, avec le SIAP. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur la Seine, il y a ces barrages flottants là qui sont gérés par le SIAP, qui vont retirer des quantités très importantes de plastique.
J'avais jamais vu.
Il faut ouvrir l'œil.
Et alors, juste à la manière aussi des textiles, où on a dit tout à l'heure que c'est vrai qu'on ne se doutait pas forcément qu'on avait du plastique et que ça participait à la contamination. Il y a également les cosmétiques. On trouve beaucoup de microplastiques.
Il y a par exemple les exfoliants. L'exfoliant lui-même, là, c'est des microbilles de plastique et ça, l'épuration, ça passe à travers de.
Pareil, ça, c'est l'utilisation de ces microbilles dans les cosmétiques est en cours. Donc, on va cesser.
Ça va s'arrêter. Alors, moi, j'ai un chiffre là. Un simple tube de crème pour le visage, c'est une source Greenpeace, donc vous me direz ce que vous en pensez, peut contenir jusqu'à 360 000 microbilles.
C'est vrai.
D'accord. Non, mais c'est comme quoi,
oui, je ne fais pas que réfuter.
C'est vrai.
Donc ça veut dire que 3 tubes de crème, c'est 1 million.
C'est ce que j'allais. Moi, j'avais plutôt même l'ordre de grandeur du million. C'est-à-dire sur un flacon de 250 millilitres, il y aura 7-8 grammes que de plastique sous forme de microbilles.
C'est dingue.
Et donc, c'est pour ça que dans un flacon de 250 millilitres, on va en retrouver. Mais rassurez-vous, c'est bientôt fini.
Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Bonne nouvelle.
En France.
En France, oui.
Sachant que c'est aussi un problème mondial, puisque.
Mais il y a, en fait, cette opération, elle a été suivie dans de nombreux pays, dont l'Amérique du Nord. Ça a été particulièrement suivi sur, justement, l'arrêt de production.
Non, dans les bons élèves, il y a le Costa Rica qui est dans les bonnes nouvelles, qui veut interdire tous les plastiques à usage unique d'ici 2020, il me semble.
Ouais. D'accord.
Ce serait bien de suivre.
Il y a eu beaucoup aussi de pays africains, mais je pense que c'était un gros fléau en Afrique, l'usage des plastiques.
Rwanda, ils l'ont fait depuis.
Ça fait un petit moment. Kenya aussi l'a fait
avec des grosses amendes.
Depuis quelques années, ouais.
Et du coup, c'est beaucoup plus propre.
En tout cas, c'est. À travers mes projets et mes études, j'ai eu l'occasion d'aller au Vietnam. Les situations qu'on rencontre en Vietnam sont très, très, très loin des situations qu'on peut rencontrer en Europe, avec des taux de fuite qui sont beaucoup plus importants, des gestions
dans
qui
sont...
Dans
le mauvais sens, plutôt.
Ouais.
Malheureusement.
Okay. Ouais. En Thaïlande, là, on a vu la baleine pilote avec 80 sacs dans l'estomac. Et forcément, ça fait des bouchons et ça entraîne la mort. Là, moi, j'ai un ami aussi qui a une green school pour apprendre aux enfants à jeter au bon endroit. Et puis, il filmait sa zone et tous les enfants jetés partout. À côté, il y a le cours d'eau et à 500 mètres, il y a la mer. Donc, voilà.
D'accord, oui. Et alors, un autre chiffre, c'est sur l'île Anderson, qui est située dans le Pacifique Sud, complètement isolée, qu'il y a des chercheurs qui ont comptabilisé 53 000 déchets sur une seule plage. Et donc, ils estimaient le nombre à 38 millions sur toute l'île. Bon, ça, voilà, il y a une forte incertitude. Mais aussi, sur les déchets qu'ils ont retrouvés, il y avait des déchets qui provenaient d'Allemagne. ou d'Écosse, sachant que là, on est en Pacifique Sud, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment un problème mondial.
Ça voyage bien.
C'est la mondialisation. Bah
déjà, peut-être que oui, c'est peut-être parce qu'on leur a vendu les poubelles aussi, vu que nous on vendait nos poubelles.
Alors non, là c'est une île
déserte. Oui, c'est avec les courants marins.
Ouais, c'est les courants marins, tout à fait. Et parce que du coup, on parlait aussi beaucoup de, d'enjeux de sobriété et de changement de comportement. Donc on a pas l'initiative de Plastic Attack. Je pense qu'il y a un bon moyen de sensibiliser les citoyens à ces enjeux-là. Est-ce que du côté scientifique, est-ce qu'il y a des... Enfin, pour le coup, est-ce qu'il y a un rapprochement aussi avec la sensibilisation?
Ce qu'on essaye de faire, c'est la sensibilisation du jeune public avec des forums, des échanges. Et puis aussi des projets... de sciences participatives. Par exemple, quand on a fait ce lâcher d'objets en scène marqués, le citoyen pouvait, avec une application, repérer des objets, nous mettre le numéro de la bague de l'objet, et voilà. Donc ça, c'est, on essaie d'impliquer
le Il n'y a pas eu de contrepartie, les gens ont balancé après leurs déchets dans la scène en vous voyant faire la...
Non, bah, il fallait qu'ils soient marqués. Non. Voilà, il y a quelques gens qui ont été surpris en se disant, mais vous êtes idiots, vous les avez ramassés, vous les avez lancés. Mais non, mais...
c'est un GPS.
Ouais, voilà. C'est un test. Fantastique, non.
Et alors, parmi les autres initiatives, enfin, tu avais fini, Johnny. Ouais. Parmi les autres initiatives, on a le Festival Zéro West, donc qui commence le 28 juin. Donc, je sais plus quel jour.
C'est du 28 au 30 juin.
C'est
donc c'est
le prochain.
En gros, c'est le week-end prochain. Ouais, voilà. À la Villette.
C'est à la Villette, à Paris. Quelqu'un d'entre
moi,
vous y va
j'irai, ou... Oui, je pense.
D'accord.
Alors il y a un certain nombre. Ouais, j'ai noté ce qu'il y avait un petit peu. Bon, c'est de la promotion du festival, mais ceci dit, ça a l'air intéressant. Et puis ça montre que ça intéresse quand même de plus en plus de monde de réunir quand même sur deux jours dans un espace culturel comme le Cabaret Sauvage, un festival comme celui-ci. Donc il va y avoir un certain nombre d'ateliers pratiques autour du faire soi-même, du bricolage, de la réparation. Et aussi la présence de, je fais de la pub pour la Maison Zéro Déchet qui passe de Paris, enfin la Maison Zéro Déchet Paris qui va se faire une boutique éphémère là-bas. Et je vous conseille d'y aller d'ailleurs, c'est une boutique assez
parmi les solutions,
parmi les solutions,
ça en fait partie.
Et on peut aussi souligner les nombreuses opérations de nettoyage de berges, enfin les différentes associations qui font un travail,
un
travail vraiment de fou,
des
opérations berges saines,
vacances propres,
voilà.
Et il y a le World Cleanup Day, c'est pour nettoyer la planète en un jour, c'est le 15 septembre.
D'accord.
Donc il y a de nombreuses, c'est vrai que ça se multiplie vraiment beaucoup et qu'on sent que les citoyens
et municipalités aussi, parce qu'à l'initiative de certaines communes, il y a des quartiers qui se nettoient.
Tout à fait.
Zéro mégot dans mon plastique dans mon quartier.
Du coup, Fanny, peut-être puisqu'on va finir l'émission là, quelques, je sais pas moi, des conseils pour les auditeurs là sur comment se passer de plastique, réduire son impact, etc.
Déjà boycotter tout ce qui est surplastifié. Après, il y a des choses simples comme le vrac. Ramener ses contenants aussi, même si vous allez manger chinois, tout ça, vous ramenez vos contenants et vous les mettez dedans. Le mien, le fait de bonne grâce. Et voilà, systématiser, boire de l'eau du robinet, pas acheter de l'eau en bouteille déjà, dire non aux pailles, les vêtements, acheter des matières plutôt naturelles, donc même si c'est un peu plus cher, bon, bah, acheter moins mais mieux.
Et c'est ça, faut oser parfois dire non, quoi, parce que
ne pas être dans un truc de consommer frénétique et penser durable plutôt que.
Bah, très bien, merci. Et Johnny, peut-être un mot de la fin.
Je ne peux que souscrire à tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que on doit être aujourd'hui plus sobre sur notre consommation de plastique. Les alternatives, elles sont nombreuses et que je suis pas sûr que. Comment dire Non, voilà, soyons beaucoup plus sobres sur la consommation de plastique.
Très bien, ben merci à nos deux invités, donc Fanny Vismara et Johnny Gasperi, qui nous ont bien fait comprendre l'ampleur du problème du plastique et la nécessité d'en finir avec ce plastique. Donc merci beaucoup à Claude qui nous a aidé toute cette année à la technique, maillon essentiel de l'émission. Merci à Damien, à Corentin et à Mathéo, les autres animateurs.
Merci à toi, Laurent.
Merci.
De l'émission. C'est fini pour nous cette année. On va mettre des rediffs pendant l'été. Donc vous pourrez réécouter cette émission quand même en podcast, et puis si vous vous levez à 7h du matin mercredi, et bah, mettez 106.3 FM. On va se quitter en musique, et donc avec Ballistic Affair, et tout à l'heure je l'ai pas cité mais on a écouté DJ Shadow Organ Donor. Bonne soirée,
merci,
bonne soirée. Et merci. Thank you.